Vous écoutez On lit pour vous.
Aidez un ou une proche plus facilement grâce à la mesure d'assistance. Un texte commandité du gouvernement du Québec paru le 4 mai 2026 dans la presse. Un ou une de vos proches rencontre des difficultés avec ses démarches du quotidien. Vous souhaitez l'aider en passant des appels pour lui ou elle et en essayant d'obtenir les informations nécessaires, mais vous vous butez à la même réponse encore et encore. Nous ne pouvons pas vous répondre sans une autorisation formelle. Loin d'être unique, cette situation illustre le fardeau avec lequel compose un bon nombre de proches aidants. Sans reconnaissance officielle, prêter assistance à un proche peut devenir éprouvant, tant pour la personne soutenue que pour celle qui accompagne. Aider à aider. Voilà donc l'optique dans laquelle s'inscrit la mesure d'assistance en permettant à tout individu dans le besoin de faire reconnaître officiellement une ou deux personnes de son choix pour l'accompagner dans différentes démarches de la vie courante. Une aide précieuse freinée. Des milliers de Québécois et de Québécoises soutiennent déjà un parent vieillissant, un conjoint ou une conjointe malade ou encore un proche en difficulté. Souvent, les gens font déjà ce travail, sans cadre officiel, explique le travailleur social Sébastien Benoît dans l'épisode « La mesure d'assistance ». Aider un proche plus facilement, du balado « Protéger ceux qu'on aime », produit par le curateur public. Or, cette aide informelle se heurte rapidement à des limites concrètes. Vérification d'identité, refus de transmettre de l'information, nécessité pour la personne aidée et son aidant d'être physiquement présent pour chaque démarche. Avant d'être reconnu comme assistant pour sa mère, Sébastien Benoît en a lui-même fait l'expérience. Il fallait absolument qu'on soit assis ensemble au même moment pour faire les démarches, sinon ça ne fonctionnait pas, se souvient-il. Ces contraintes peuvent entraîner des délais, des erreurs et une fatigue supplémentaire dans des moments déjà éprouvants. Une reconnaissance qui change tout. Encore peu connue, la mesure d'assistance mise en place par le gouvernement du Québec vise précisément à prévenir de telles situations. Elle permet à une personne vivant une difficulté de désigner une ou deux personnes de confiance qui seront officiellement reconnues par le curateur public pour l'accompagner dans diverses démarches. Une fois leur inscription faite au registre public des assistants, ses proches peuvent communiquer avec différents intervenants, comme les institutions financières, les professionnels de la santé, les ministères et organismes, ainsi que les autres fournisseurs de produits ou services, pour obtenir et transmettre des renseignements au nom de la personne aidée. L'assistant est légitimé dans son rôle. Des institutions peuvent facilement vérifier au registre ce qui met tout le monde en confiance, souligne Sébastien Benoît. Cette reconnaissance simplifie les échanges, évite de répéter les autorisations d'un intervenant à un autre et rend les formalités beaucoup plus fluides. Les délais sont raccourcis énormément et on n'a plus d'erreurs dans les démarches, observe-t-il. Accompagner sans décider. La mesure d'assistance repose sur un principe fondamental, préserver l'autonomie de la personne aidée. Ce n'est pas une prise en charge. La personne reste autonome. Elle prend ses décisions et signe ses documents, dit Sébastien Benoît. Ce faisant, le rôle de l'assistant ou de l'assistante est d'accompagner. C'est une courroie de transmission. Il ou elle recueille l'information, la traduit et transmet les volontés de la personne, résume-t-il. Concrètement, cela peut consister à appeler un assureur pour comprendre un refus de réclamation, à vérifier la légitimité d'une opération inscrite au relevé bancaire, à s'assurer qu'un dossier est complet ou encore à aider à comprendre un traitement médical. Autant de démarches qui deviennent plus simples et plus efficaces lorsque le rôle de l'assistant est reconnu officiellement. Pour des réalités variées. Contrairement aux idées reçues, la mesure d'assistance ne concerne pas uniquement les personnes âgées. elle peut s'appliquer dans de nombreuses situations. Fatigue liée à une maladie, limitation fonctionnelle, difficulté de concentration, barrières linguistiques ou complexité administrative, etc. Il n'y a pas une seule situation type. Ce qui compte, c'est que la personne soit capable de prendre ses décisions, précise Sébastien Benoît. La mesure d'assistance permet aussi de faciliter l'accompagnement à distance lorsque les proches ne vivent pas dans la même ville. Surtout, elle réduit les frustrations et le sentiment d'impuissance. Bref, moins de temps consacré à des démarches répétitives et plus de disponibilité pour l'essentiel. Être là pour l'autre. Se proposer comme assistant pour quelqu'un qu'on aime peut être un beau geste d'amour et de bienveillance, dit Sébastien Benoît. Une façon de transformer une aide déjà bien réelle, mais souvent invisible, en un rôle reconnu et d'autant plus aidant. C'était « Aider un ou une proche plus facilement grâce à la mesure d'assistance », un texte commandité du gouvernement du Québec paru le 4 mai 2026 dans la presse.
Hockey, Poutine, Céline. Un texte de Marie-France Bazot paru le 11 mai 2026 dans la presse. Mais qu'est-ce que la culture québécoise exactement? Au moment où j'écris ma chronique, nous sommes en plein cœur de la série Montréal-Buffalo. J'applaudis la présence exponentielle du nombre de voitures arborant un fanion du CH et je me dis que le hockey est bel et bien un élément essentiel de la culture d'ici. Et si je vous demandais de me dire les trois mots qui, pour vous, encapsulent la culture québécoise, quels seraient-ils? Je vous interroge car j'ai été très interpellée par une pièce de théâtre vue récemment. Un jour nouveau, de l'auteur Jean-Philippe Barry-Guerrard, tente de répondre à cette question. C'est drôle et ça fait réfléchir. Dans cette satire politique, le gouvernement d'un Québec souverain, depuis peu, confie à quatre créateurs le mandat de créer un spectacle inaugural célébrant notre culture. Enfermés dans une salle pendant 24 heures, les quatre têtes pensantes, après moult déchirements et engueulades, finiront par accoucher d'une consensuelle et très marketing idée de spectacle basée sur trois mots emblématiques. Hockey, Poutine, Céline. Le hockey, parce qu'il rassemble les Québécois de tous âges et de toutes origines. La poutine, parce qu'elle parle du réconfort qu'apportent culture et tradition. Céline, parce qu'elle symbolise le talent québécois qui s'exporte brillamment tout en évoquant la maison. L'auteur pose une question importante. Quelle culture représente le mieux le Québec? Celle des intellos du plateau, qui voudraient que les références communes soient Robert Lepage et Kev Lambert, ou celle de la classe moyenne qui fait du skidoo en région. Le champ des possibles est vaste entre ceux qui s'ennuient du cours classique et ceux qui adorent le country, si on veut caricaturer. Dans Un jour nouveau, les quatre protagonistes se déchirent à propos du niveau de culture. Le débat est pertinent, car de quoi parlons-nous quand on dit culture québécoise? Si on se réfère aux pages culturelles, on parle spectacle, musique, littérature, art visuel. Mais une définition plus large engloberait manière de vivre, ensemble de valeurs et de traditions qui nous unissent. Cette définition est la plus partagée parce que plus complète, plus rassembleuse. Il est plus facile d'y adhérer. Elle est plus conceptuelle que motivée par des goûts associés à une classe, par exemple. Par curiosité, j'ai posé la question des trois mots à un robot conversationnel qui m'a répondu que la culture québécoise était francophone, collective et festive. Une réponse qui parle de langue commune et d'identité, de bien commun et d'égalité sociale, d'effervescence et de convivialité. Pas mal. Mais lorsque vient le temps d'incarner les trois mots en termes strictement culturels, on patauge à nouveau. On parle de quoi? De cinéma d'auteur? De vedettes aimées par toutes les générations? De littérature jeunesse ou autochtone? De grands concerts à la place des festivals ou en région? De racines ou d'inclusivité? Notre culture est vaste et la nommer, en faire ressortir les plus petits dénominateurs communs, s'avère périlleux. Et c'est ainsi que, dans la pièce, les quatre protagonistes reviennent inlassablement au trio hockey, Poutine, Céline, qui s'avère, au bout du compte, symboliquement porteur. Ces dernières années, le Québec s'est aperçu de l'importance de la culture. Rappelez-vous, il y a peu, une décennie à peine, la culture, c'était des artistes subventionnés qui coûtent trop cher. Le curseur s'est déplacé. Il a bougé, entre autres, avec les plateformes numériques qui peuvent laminer des cultures nationales fragiles ou en faire la promotion. Avec empathie et vitrerie joyale, nous y faisons rayonner le meilleur de nous-mêmes. La culture rapporte, soude, réunit ceux qui habitent un territoire. Les événements festifs pullulent en région et repimpent des centres-villes. Du festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie au très populaire Festirame d'Alma au Lac-Saint-Jean, la culture pétille plus que jamais. Son effervescence se répand jusqu'au bout des banlieues avec un réseau de salles qui propose humour, théâtre, chansons à un public nombreux et réjoui. Ce sera encore un été où nous resterons chez nous à cause des États-Unis, de la conjoncture internationale et du prix de l'essence. Ce sera l'occasion d'aller au Festif de Baie-Saint-Paul, au Festival des camionneurs de l'Adoré, de tenter sa chance dans un des restos récompensés par Michelin, de lire québécois, car notre littérature brille de mille feux. Notre culture est unique, fragile, mais foisonnante. Angine de poitrine, avant le crash, et la cantine de Colombe-Saint-Pierre, les roses de Montréal, Robert Charlebois et Mani Solimanlou, le hockey, la poutine et Céline. Qu'est-ce que la culture québécoise en trois mots comme en cent? Chose certaine, nous apprenons à l'aimer et à en être fiers. Elle est vaste et généreuse, a de la profondeur historique, mais nous sommes encore maladroits, empêtrés quand vient le temps de nous présenter au monde et à nous-mêmes. La culture est le socle de notre identité, notre soft power. En minimiser l'importance, c'est carrément se diminuer. Ne pas savoir exactement de quoi elle est faite, c'est bien mal se connaître. Fait que, OK, Poutine, Céline. C'était Hockey, Poutine, Céline, un texte de Marie-France Bazot, paru le 11 mai 2026 dans la presse.
Les déchets, un filon pour les PME. Un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse. Au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, CTTEI de Sorel-Tracy, on transforme les déchets des entreprises en ressources. La PDG Claude Maheu-Picard explique comment son organisation aide les PME québécoises à verdir leurs procédés et à y trouver leur compte. Dans les friperies du Québec, une partie des vêtements ne trouve jamais preneur. Habits tachés, défraîchis ou trop usés. Des quantités énormes de textiles s'accumulent dans les centres de dons. Jusqu'ici, une bonne partie finissait à l'enfouissement. C'est ce constat qui a mis en branle un projet inattendu au CTTEI. En cherchant comment détourner ces textiles de la poubelle, l'organisation a fait la rencontre de Nature Fibre, un manufacturier spécialisé dans les panneaux isolants à base de chanvre, ouvert à diversifier ses produits. On a fait un plus un, résume Claude Maheu-Picard. D'un côté, une matière première abondante et sans valeur apparente. De l'autre, un industriel prêt à l'exploiter. Avec les partenaires, le CTEI a joué le rôle de catalyseur. Analyser la matière, établir la bonne recette, fabriquer des prototypes, puis évaluer leur performance. Après un an et demi de travail, le projet est maintenant prêt pour la prochaine étape. On essaie de voir comment le commercialiser. Transformer les résidus en ressources. Ce scénario n'a rien d'exceptionnel pour le CTTEI. Depuis plus de 25 ans, le centre accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs résidus, que ce soit des textiles, des plastiques, des matières organiques ou des métaux. L'idée de base, ce qui est un déchet pour l'un peut devenir une ressource pour l'autre. Concrètement, l'équipe de 23 spécialistes composée d'ingénieurs, de chimistes, de biologistes, mais aussi de professionnels des sciences sociales, analyse les matières résiduelles, trouve des débouchés et rapproche les acteurs susceptibles de s'associer. On aide les entreprises à être plus compétitives en faisant une meilleure gestion de leurs résidus, explique la PDG. Ce qu'on veut, c'est changer les pratiques, mentionne celle qui est finaliste dans la catégorie Petite OBNL au prix PDG Vert. Dans le secteur de la construction, le CTTEI travaille notamment à développer des bétons bas carbone en remplaçant une partie du ciment par des sous-produits de l'industrie métallurgique québécoise. Les cimenteries figurent parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Réduire leur empreinte, c'est un gain environnemental majeur. On répond aux besoins immédiats des clients et il faut qu'il y ait une rentabilité à court terme pour eux, insiste Claude Maheu-Picard. L'approche de l'organisation repose sur la recherche appliquée, afin de proposer des solutions concrètes aux entreprises, pas des concepts. De marginal à incontournable. Il y a 20 ans, quand Claude Maheu-Picard s'est joint à l'organisation, le discours sur l'écologie industrielle suscitait la méfiance. On se faisait regarder comme des extraterrestres. On me disait qu'écologie et industrie, c'était deux mots qui n'allaient pas ensemble, raconte la dirigeante. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec s'est doté d'une feuille de route en économie circulaire. Des programmes de financement existent. Les fonctionnaires connaissent le vocabulaire. Le CTTEI a contribué à ce changement en accumulant les preuves économiques et en les faisant connaître. Le contexte actuel, avec crise climatique, tensions commerciales et normes européennes plus strictes en toile de fond, accélère encore les choses. Les entreprises cherchent à se réinventer. Et le centre de Sorel-Tracy est là pour les y aider, un résidu à la fois. C'était « Les déchets, un filon pour les PME », un texte d'Émilie Laperrière, paru le 22 avril 2026 dans La Presse.
Les remèdes contre la réunionite.
un texte d'Isabelle Dubé, paru le 29 avril 2026 dans La Presse. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un se plaindre d'un trop-plein de réunions inutiles? Pourtant, seulement 23 % des travailleurs québécois estiment participer à trop de réunions, révèle le plus récent sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, CRHA. À l'heure où les entreprises veulent augmenter leur productivité, les réunions doivent être plus que jamais bien réfléchies. Le coup de sonde est clair. Les professionnels dans les bureaux passent beaucoup de temps à brainstormer, à écouter, ou à faire autre chose pendant que leurs collègues discutent en réunion. Ils sont 40 % à l'avouer. Un phénomène qui fragmente l'attention, soutient l'ordre des CRHA et qui peut contribuer à diminuer la productivité des travailleurs. C'est beaucoup de temps qu'on passe collectivement dans les milieux de travail en rencontre, et rares sont les organisations qui accordent beaucoup d'attention à la pertinence des réunions et les mesures, observe Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des CRHA. L'Ordre a voulu aller au-delà de l'anecdote de la réunionnite citée dans les organisations depuis des décennies, mais plus encore depuis la pandémie. Depuis le télétravail, on a beaucoup entendu les gens dire qu'ils avaient l'impression d'être plus en réunion, et des données américaines indiquent un nombre important d'heures passées en réunion. On voulait donc l'évaluer ici, soutient la directrice générale. Le sondage, mené par la firme Léger en mars dernier, a sondé 702 personnes en emploi, dont 28 % de gestionnaires. Bien que de nombreux travailleurs se plaignent à voix haute qu'ils sont toujours en réunion, le sondage révèle que seule une minorité d'entre eux, 23 % estime participer à trop de réunions, et une large majorité juge leur nombre adéquat, 71 %. Cependant, la perception des réunions est relativement partagée. 55 % estiment qu'elles s'avèrent un outil utile ou un levier essentiel au bon fonctionnement du travail, indiquent les résultats de l'étude, contre 43 % qui les considèrent comme un mal nécessaire ou une perte de temps. Dans les organisations, beaucoup de temps est consacré à l'analyse de chaque activité, statistiques à l'appui, remarque Manon Poirier. On mesure chaque appel du service à la clientèle, cite-t-elle en exemple. Or, les réunions font rarement l'objet d'un regard si attentif et assidu, soutient-elle, alors que ce temps a une valeur économique. On ne dit pas que les réunions ne sont pas importantes, précise-t-elle. C'est important comme moyen de communication pour partager de l'information et s'assurer de l'alignement au sein de l'organisation. Mais ça devrait être une préoccupation organisationnelle dans une volonté de réduire la charge de travail, d'accompagner nos employés dans l'efficience, car c'est une composante d'affaires. Ce n'est pas un à côté. Ça fait partie de nos opérations. Puis, on devrait les mesurer et former nos gens qui les animent de la même façon qu'on le fait pour l'ensemble du reste des activités, assure-t-elle. Pensez à la pertinence de vos invitations. Les organisations doivent réfléchir à la pertinence des réunions pour chaque employé, car bon nombre d'entre eux, 41% selon le sondage, ne sont pas à l'aise de refuser une invitation à une réunion qu'ils jugent non pertinente. Avec tous les outils technologiques disponibles, l'organisation pourrait décider d'envoyer simplement un petit résumé clair avec quelques points importants de la dite réunion, avec l'option de cocher une case « J'ai bien lu » pour que les gestionnaires s'assurent que l'employé a bien pris connaissance de l'information, suggère l'ordre. Une majorité de gestionnaires, 55%, affirme d'ailleurs utiliser occasionnellement ou régulièrement des outils d'intelligence artificielle pour retranscrire et faire un résumé des réunions. Comment accélérer la productivité en réunion? En la tenant après que les employés ont terminé leur travail le plus pressant pour qu'ils soient concentrés sur le sujet de la discussion. Préparer un ordre du jour communiqué à l'avance aux participants est aussi une bonne idée afin de faciliter la discussion ou la prise de décision lors de la réunion. Ne sous-estimez pas la qualité de l'animation. La présidente de l'ordre conseille de miser sur le développement des capacités d'animation avec des techniques qui rendront les rencontres plus efficaces. On a l'impression que tout le monde est capable d'animer une réunion, mais animer, ce n'est pas juste donner le droit de parole, prévient Manon Poirier. Il faut réfléchir à l'ordre des sujets abordés, anticiper la durée, gérer les employés qui prennent trop de place, faire parler ceux qui ne prennent jamais la parole et résumer les idées. Les gens vont se sentir plus interpellés et avoir le sentiment d'avoir contribué. Quand les gens s'expriment, ils se sentent plus engagés et trouvent que la réunion est meilleure. C'est un bel acquis pour une organisation d'optimiser la perception de la valeur ajoutée des réunions, conclut-elle. C'était Les remèdes contre la réunionite. Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 29 avril 2026 dans La Presse.